Il y a quelques mois, une personne me confiait, je viens de déjeuner avec un tertiaire dominicain, et il m'a dit que vous n'étiez pas en odeur de sainteté à avrier. Madame, lui dis-je, c'en était une, je vous le demande, vous me connaissez bien, où suis-je en odeur de sainteté? Et si seulement ce n'était qu'une question d'odeur? Quelques heures plus tard, mon téléphone m'indiqua un appel du père Innocent Marie. Avec inquiétude, vous me comprendrez, je pris la communication et je fus surpris d'entendre la voix du père Terence. Et je compris alors que je n'avais pas pris en compte les dernières nominations et je fus surtout rassuré de ne pas le sentir incommodé par mon odeur. Ses propos n'avaient pas d'autre but que de retenir ceux qui s'apprêtaient à s'endormir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Révérend Père Terence, chers enfants, sont-ils encore des enfants ceux qui s'apprêtent à faire aujourd'hui un serment solennel de fidélité à Jésus-Christ? Mes bien chers frères, nous connaissons tous l'origine de cette cérémonie qui n'est pas tant une communion solennelle qu'une profession de foi. Il y a 30 ans, jeune prêtre envoyé au Canada, je fus surpris de constater que cette cérémonie n'existait pas dans ce pays. Saint Pidis permettant la première communion dès l'âge de raison, nos évêques français instituèrent cette cérémonie comme une contrainte qui permettrait de continuer l'enseignement du catéchisme jusqu'à l'adolescence. Les curés les plus zélés, et je veux penser ici à M. l'abbé Joseph Louis Moreau, curé de Louisfer, ajoutèrent le renouvellement de la profession de foi, puis même le renouvellement du renouvellement. C'était autant de gagner, car une fois la communion solennelle célébrée, comme auparavant la première communion, cela signifiait malheureusement, dans bien des cas, la fin de toute instruction religieuse et pire encore, la fin de la pratique religieuse. Ce ne sera pas le cas pour les garçons d'aujourd'hui. Il n'y a pas si longtemps encore, cette cérémonie était programmée en classe de sixième et pour avoir pratiqué de longues années ce ministère exigeant auprès des enfants, je m'étais rendu compte qu'il serait préférable, pour la rendre plus profitable, qu'elle se fît plus tardivement, et je me suis même demandé si le mieux n'aurait pas été de la repousser en première ou en terminale. Il y a 45 ans, Seigneur, que la vie est courte, la profession de foi se faisait en sixième à la Pérodière, l'école de Lusconnette. Mais je n'ai pas oublié cette promesse volontaire et solennelle que les élèves de terminale faisaient au moment de quitter leur école. C'était l'aboutissement, je dirais le point d'orgue, d'une éducation et d'une instruction chrétienne. Après une nuit d'adoration à la chapelle, ces jeunes hommes que nous étions s'engageaient à l'occasion de la fête Dieu devant l'école rassemblée, élèves et professeurs. Voici un extrait de cet engagement. Seigneur Jésus, vous avez daigné accepter l'hommage des chevaliers de la chrétienté et qui, sans les enlever à leur métier des armes, avez voulu que par eux le monde vit comment on sert le roi des cieux. Acceptez-moi en ce temps où les portes de l'enfer luttent si durement contre la Sainte Église. Je consacre ma vie, mes forces, mon métier à l'établissement de votre règne sur ma patrie et sur le monde. Je veux que toute ma vie soit un témoignage de la foi. Je promets d'étudier avec persévérance la doctrine traditionnelle de l'Église. Je promets d'endurcir mon corps à la fatigue pour me garder pur et devenir fort. Je veux vivre de la charité. Je viens non pour être servi, mais pour servir mon Seigneur en tous ceux qu'il placera sur mon chemin. Lorsque le père Terence me demanda de préparer ses élèves de quatrième, vos garçons adolescents, pères et mères qui m'écoutaient, vos filleuls, parrains et marraines qui les entouraient, lorsqu'il me demanda de les préparer à leur profession de foi, évidemment, ces souvenirs me sont revenus en mémoire. souvenir de ma propre communion solennelle, et j'ai conscience, aujourd'hui encore, d'avoir bénéficié d'un environnement privilégié. D'abord un prêtre, curé de paroisse, je le citais à l'instant, qui refusa de se soumettre et d'obéir. Quel exemple ! Quand je pense que 50 ans plus tard, une grande partie de ce que nous appelons la tradition ne rêve plus que d'obéissance et de soumission. Je sais que l'obéissance est une vertu chrétienne et je n'ai pas manqué de le rappeler à vos enfants. Mais il ne faut pas oublier que l'obéissance à Dieu exige de désobéir aux hommes et de plus en plus souvent aujourd'hui. Ensuite, Dieu m'a donné des parents chrétiens qui ont assumé sans peur des choix difficiles et je les en remercie. Enfin, mes parents m'avaient confié à une école catholique exigeante, c'est peu dire, mais nous n'étions pas en 2023. Je n'ai jamais caché ma reconnaissance à ces professeurs dévoués au-delà de l'imaginable. Nous étions au commencement de cette résistance pratique à l'apostasie générale. Eh bien, reconnaissons-le, mes frères, Dieu ne nous a pas abandonnés, car il me semble que ces élèves, aujourd'hui, ne sont pas moins privilégiés que je ne le fus, et peut-être même le sont-ils davantage. S'ils sont ici, c'est qu'ils bénéficient de parents éclairés et courageux. En ces temps mauvais, quel héritage pourrait surpasser celui d'avoir été formé d'abord par le cœur d'une mère chrétienne, ensuite dans une atmosphère religieuse. Je ne voudrais pas nuire à leur modestie, c'est pourquoi je ne dirai rien de l'œuvre scolaire des pères dominicains, leur souhaitant de faire mieux encore si possible, mais je ne connais pas l'œuvre qui surpasse ce qu'ils font. Que fallait-il dire à ces garçons qui s'apprêtent dans un instant, la main sur l'Évangile, le regard droit sur le tabernacle, à prononcer ces paroles lourdes de conséquences? Je renonce définitivement à Satan, je m'attache à Jésus-Christ pour toujours. Les plus anciens qui m'entendaient, ne ressentez-vous pas encore un reste de cette émotion que nous avions éprouvée à cet instant solennel qui engageait notre vie il y a 40, 50, 60 et davantage encore peut-être? Peut-être parce qu'on ne m'en avait pas suffisamment parlé, en tout cas c'est un regret que j'ai éprouvé. J'ai pensé qu'il n'y avait rien de plus approprié que de leur parler de Jésus-Christ tel qu'il s'est révélé à nous dans l'Évangile. Serait-il raisonnable de déclarer s'attacher à Jésus-Christ pour toujours, alors qu'il ne serait connu que très superficiellement, je veux dire par les questions-réponses du catéchisme, auxquelles on peut ajouter sans doute quelques passages de l'Évangile entendus le dimanche, mais la plupart du temps hors de leur contexte? Y a-t-il un seul homme, ici ou ailleurs, qui se satisferait de telles fréquentations pour envisager de s'engager définitivement avec la femme qu'il aime et réciproquement? Comment pourrait-il être possible de s'attacher à Jésus-Christ sans le connaître intimement? C'est un reproche que parfois ma conscience adresse au prêtre que je suis. Savons-nous faire connaître Jésus-Christ tel qu'il fut parmi nous, aux âmes qui nous sont confiées pour le rendre aimable? Et s'il est aimé, dès lors, je comprends ces paroles hardies de saint Paul aux Romains, qui pourrait nous séparer de l'amour du Christ? Les tribulations, les angoisses, les persécutions, la faim, la nudité, les périls ou le glaive? Je renonce à Satan, je m'attache à Jésus-Christ. Ces paroles, si elles ne sont pas portées par un amour ardent du Christ, elles sont aussi légères que le vent. Je ne doute pas que vos enfants, élèves de quatrième, ne soient captivés, passionnés par quelques grands personnages de notre histoire, histoire civile, militaire ou religieuse, mais quel personnage mérite d'être mieux connu que Jésus-Christ? J'ai connu par le passé ces concours inter-écoles de la tradition, des classes de CM2, de 3e et de 1e, eh bien aujourd'hui je proposerai comme sujet à traiter pour les élèves de 1e, retracer la vie du Christ le plus précisément que vous pouvez en 2 heures. J'ouvre ici une parenthèse de quelques secondes. Elle n'est pas sans importance. Je fus par le passé à plusieurs reprises correcteur de cet examen de première pour la doctrine. Il y a environ 20 ans, le sujet concernait la nouvelle messe. Qui s'étonnerait que notre formation doctrinale comporte une critique de la synaxe de Paul VI de malheureuse mémoire? Moins de 10 copies sur les 75 ont obtenu une bonne note, et je ne suis pas un correcteur exigeant. Un tiers de ces copies ont obtenu faiblement la moyenne, le reste une mauvaise, voire une fort mauvaise note, et même une copie faisait l'apologie de la nouvelle messe. Je me sentis obligé de transmettre un rapport au supérieur de district de l'époque, qui diligenta une réunion de directeurs d'école secondaire, et entrant dans cette salle de réunion, le premier confrère directeur qui me rencontra me dit « L'abbé Pinault, vous nous faites perdre un jour. Vous auriez dû rajouter 5 points à toutes les copies. » Je ferme la parenthèse en pensant que ces élèves aujourd'hui ont entre 30 et 35 ans. Et je ne suis pas convaincu qu'ils soient émus par la consécration des huiles célébrées par Mgr Wonder dernièrement. Jésus-Christ, vous disais-je. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort disait sans exagération, celui qui ne sait rien, s'il connaît notre Seigneur, il sait tout. Vous pouvez deviner la suite. Celui qui saurait tout et qui ne connaîtrait pas notre Seigneur Jésus-Christ, que sait-il? Rien. C'est la mère chrétienne qui fait connaître Jésus à ses enfants bien avant qu'ils ne sachent lire et écrire. Je remercie la mienne. Plus cette mère connaîtra Jésus-Christ elle-même intimement, et plus ses enfants seront portés à l'aimer. Et cela est encore plus efficace lorsque c'est le père de famille qui parle de Jésus-Christ à ses enfants. Père de famille qui m'écoutez, une question que je laisse à votre réflexion. Quand, la dernière fois, avez-vous parlé de Jésus-Christ à vos enfants? Il n'est pas improbable que parmi vous, il en est qui n'ont jamais lu, non pas les 4 évangiles, mais seulement un seul dans son intégralité. Combien de biographies d'hommes et de femmes célèbres avons-nous lu, et peut-être n'avons-nous jamais lu une seule vie de Jésus-Christ? Comment nous serait-il dès lors possible de le connaître? Comment nous serait-il possible de le reconnaître? Comment nous serait-il possible de l'aimer vraiment? Lorsque j'étais enfant, j'étais admiratif de ces bergers qui, sur l'invitation de l'ange, étaient venus reconnaître leur sauveur, reconnaissable à ce signe, un enfant nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. Et ils en étaient repartis comblés. Mais je ne pouvais m'empêcher de me dire, comment ont-ils bien pu reconnaître cet enfant nouveau-né comme leur Dieu? Comment ont-ils pu reconnaître que cet enfant était leur sauveur? Et je me posais cette question, l'aurais-je moi-même reconnu? Et je n'entends jamais, encore aujourd'hui, cette question du Christ à ses apôtres après la seconde multiplication des pains, sans me demander quelle aurait été ma propre attitude, mon attitude personnelle. Souvenez-vous, le Christ interroge « Qu'est-ce que les gens disent au sujet du Fils de l'homme ?» Il est toujours facile de rapporter les propos d'autrui. Certains disent que vous êtes Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres encore Jérémie ou un prophète. Mais cette question nécessite une réponse de la part de chacun d'entre nous et aujourd'hui très précisément de la part de ses élèves de quatrième. Nathanaël était-il là, lui qui avait confessé la divinité du Christ dès sa première rencontre au bout d'un quart d'heure? Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Ici c'est Pierre qui prend l'initiative. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Merveilleuse réponse. Mais Saint-Pierre a mis tout de même plus d'un an, là où la Samaritaine a mis moins d'une heure. S'attacher à Jésus-Christ, c'est s'engager à vivre de la foi. Chaque page de l'Évangile nous le confirme. Pas un miracle qui ne soit obtenu sans une confession de la foi. Va, ta foi t'a sauvé, qu'il te soit fait comme tu crois. Eh bien, l'épreuve est toujours la même. Et si nous nous imaginons qu'il nous aurait été plus facile de croire si nous avions vu notre Seigneur, si nous avions vécu lors de sa vie sur cette terre, c'est peu probable. Il est même à craindre qu'il nous eût été une occasion de scandale. Pour reconnaître le Sauveur en Jésus, il faut la foi candide d'un cœur d'enfant, que les choses de ce monde n'encombrent pas et qui s'ouvre à celles du ciel. Qu'est-ce que la foi ? Saint Jean nous le dit, c'est de croire que Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En lui seul est le salut, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné aux hommes que celui de Jésus qui peut nous sauver, dira saint Pierre devant les princes du peuple et les anciens. Et il se souvenait avoir entendu notre Seigneur dire « Vous n'avez qu'un seul maître, le Christ ». C'est le sens de votre engagement « Je m'attache à Jésus-Christ ». Il ne sera pas sans conséquence. Aujourd'hui, s'attacher à Jésus-Christ pour toujours, il serait malhonnête de vous le cacher, c'est s'exposer à de grandes difficultés. Le Christ nous en a averti lui-même. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de scandale. Eh bien, dans ces circonstances, lorsqu'elles se présenteront, vous n'aurez pas d'autre parole que celle de saint Pierre. Seigneur, à qui irions-nous ? Vous possédez les paroles de la vie éternelle. Nous croyons et nous savons que vous êtes le Saint de Dieu. Tertullien disait « Solutio totius difficultatis Christus ». Il n'est même pas utile de traduire. Soyez-en conscients, vous ne serez fidèles à cet engagement que si vous prenez aujourd'hui la ferme résolution de connaître toujours plus intimement Jésus-Christ afin de pouvoir l'aimer plus ardemment. Cela a toujours été vrai, mais cela est encore plus nécessaire aujourd'hui pour des raisons historiques que relevait le père de Clorivière. C'est Jésus-Christ qu'on attaque directement par la révolution, écrivait-il. Eh bien, puisque c'est sa connaissance qu'on veut obscurcir et s'il se peut extirper de l'esprit des hommes, nous donc, au contraire, pour rendre ses efforts inutiles, nous devons faire une étude plus approfondie de sa connaissance. Nous devons nous pénétrer des preuves de sa divinité, de l'admirable économie du mystère de Dieu fait homme. Cela n'est possible que par une connaissance intime de l'Évangile. Parrains et marraines, vous pouvez les y aider très utilement en leur offrant une bonne vie de Jésus-Christ. Il n'en manque pas. Je pense à celle du Père Berthe ou encore celle de Louis Veuillot. Elles sont très accessibles pour des enfants de cet âge. Tous les saints ont lu dans les siècles passés celle de Ludolphe le Chartreux, et il faut toujours la préférer évidemment à Maria Valtorta. Une profession de foi se fait un dimanche ou une fête d'obligation, un jour en tout cas où l'on chante le credo. Dans un instant, un à un, vous n'allez pas seulement confesser la foi, vous allez promettre d'en vivre jusqu'à votre dernier souffle. N'est-ce pas téméraire de prendre publiquement un tel engagement ? Je le croirais et je vous dissuaderai de le faire si l'Église, dans sa sagesse, n'avait pas uni à cette confession publique une communion solennelle qui nous rappelle « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». La solennité de cette communion n'a pas d'autre sens que de nous rappeler que celui qui veut prétendre servir le Christ et qui ne mange pas sa chair et ne boit pas son sang est un insensé qui est sur le chemin de la trahison. Professer la foi nécessite de connaître le Christ. En vivre exige de le dévorer, c'est le terme même qu'emploie saint Jean. Chers enfants, vivez ces instants avec cet esprit de foi qui animait les chevaliers des siècles chrétiens, qui engageaient toute leur vie au service du Christ. Seigneur Jésus, de qui descend toute noblesse et toute chevalerie, apprenez-nous à servir noblement. Que notre fête ne soit point parade ni littérature, mais loyal ministère et sacrifice coûteux. Tenez nos âmes hautes tout près de vous, dans le dédain des marchandages, des calculs et des dévouements à bon marché. Car nous voulons gagner notre paradis, non pas en commerçant, mais à la pointe de notre épée, laquelle se termine en croix et ce n'est pas pour rien. Nous avons fait de beaux rêves pour votre amour. Dans l'obscurité des journées banales, préparez-nous aux grandes choses et enseignez-nous que la plus fière épopée est de conquérir nos âmes et de devenir des saints. Nous n'avons pas visé moins haut, Seigneur, et nous sommes bien ambitieux. Mais heureusement, nous sommes faibles, et cette grâce, nous l'espérons de votre miséricorde, nous conservera humbles. Demandez-nous beaucoup et aidez-nous à vous donner davantage. et puisque nous nous sommes livrés à vous, ne vous gênez pas pour nous prendre au mot et pour nous sacrifier. Nous vous le demandons, malgré le tremblement de notre chair, car nous voulons n'avoir qu'une crainte, celle de ne pas vous aimer assez. Et quant au soir de notre bataille, votre voix de chef sonnera le ralliement de vos chevaliers. Faites, Seigneur, c'est notre suprême prière, faites que notre mort serve à quelque chose et accordez-nous la grâce de mourir debout. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.